en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Alors nous allons faire un habit vert avec monsieur René de Obaldia qui vient de sortir aussi un livre avec ses titres extraordinaires qui s'appelle Fantasme de demoiselle, femme faite ou défaite cherchant l'âme sœur. Alors, nous en avons parlé, nous en parlons ailleurs dans une émission qui s'appelle Au fil des pages. Mais René de Obaldia, est-ce que il s'agit d'une série de petites annonces que passent des dames finalement et que vous écrivez pour elles? Alors, est-ce que ces dames vous ont envoyé elles des petites annonces ou vous ont répondu à vous?
Eh bien, oui, oui, absolument. J'ai reçu après ce livre, après l'apparition de ce livre, un courrier assez abondant, une soixantaine de lettres. Dont certaines sont très étranges et l'une me vient à l'esprit, c'est une charmante dame qui m'écrit de Belfort, ça m'en vient à l'esprit, de Belfort, et qui me dit à peu près, voilà, je vous ai entendu, c'était Europe numéro 1, j'ai lu votre livre, je l'ai relu. Et je dois vous faire une confession. Ma fille vit encore sous mon toit. Ma fille Nadège. Ma fille Nadège vit encore sous mon toit. Elle a 31 ans. Et j'aimerais bien voir vous qui, attendez son terme, vous qui connaissez si bien les méandres du cœur féminin, j'aimerais bien vous la présenter. Votre jour, votre heure sera les nôtres. Voilà. Alors, entre autres lettres comme ça que j'ai reçues.
Mais demandez-vous des photos.
Des photos, non, je n'ai pas reçu de photos. Non. Ni habillées, ni déshabillées.
Et y a-t-il des lettres qui vous ont suscité, disons?
Oui, quand même. Il y a parfois un pathétique, je pourrais dire. Un pathétique des situations de femmes qui essaient vraiment de trouver l'âme sœur, hein, véritablement. Et il y a parfois un accent pathétique auquel j'ai été sensible.
Alors, les femmes sont un des fils roses de votre œuvre, si l'on peut dire. Mais toute votre histoire paraît sortie avec sa fantaisie d'un de vos livres. Puisque vous êtes né à Hong Kong, si j'ai bien compris.
Absolument.
À la frontière du Scorpion et du Sagittaire.
Oui, absolument. Je vois que oui. Parce que c'est donc le 22 octobre, c'est à la frontière, comme vous dites, du Scorpion et de la Balance.
Ah, pardon.
La Balance, oui. Et le Scorpion. Et si bien que certains me disent « Ah, oh, mais vous êtes typiquement Balance », d'autres me disent « Ah, oh, mais vous êtes Scorpion, c'est évident ». Mais il y a une ambiguïté fondamentale, en ce sens que, puisque c'est en Chine, les heures sont inversées, les heures ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, je vous dis, pour certains, je suis Balance, d'autres Scorpion, mais ce qui fait peut-être cette ambiguïté dont je parlais à l'instant de ma propre personne.
Alors, votre naissance, et même sur votre épée d'académie, si l'on peut dire, puisque est-ce que vous pouvez en rappeler un tout petit peu le dessin du pommeau?
Eh bien, le dessin du pommeau, d'abord, on a la monnaie de Paris m'a frappé une médaille à mon effigie, donc on a reproduit, et c'est un très beau profil, hein, oui, un profil romain.
Mais vous avez un beau profil.
Un beau profil.
Moi, alors, qui vous ai devant moi.
N'est-ce pas? Alors, donc on a repris ce profil qu'on a remis, comme ça, qu'on a sur l'épée, sur le pommeau. Il y a également, bien sûr, les titres de mes principales œuvres, théâtrales et romanesques. Et puis, il y a un rideau qui s'ouvre en rubis, une sorte de rubis, un rideau qui s'ouvre, qui montre le théâtre, bien sûr.
Le rideau rouge.
Le théâtre, oui. Rouge, avec une plume d'or qui plonge dans une sorte de filet bleu, et qui est censé représenter le canal de Panama. Il faut avoir un peu d'imagination tout de même.
Car vous êtes panaméen.
Je suis panaméen.
Alors votre papa était panaméen.
Absolument.
Votre maman était picarde.
Absolument.
Votre nounou était chinoise.
Exactement.
Votre ex-femme était anglaise.
Tout à fait. Mais oui, oui, oui.
Oui. Alors, où vous situez-vous, cher René de Obaldia?
Eh bien, je me suis un peu, disons, citoyen du monde, d'une certaine manière. Du reste, cette manière, ce qui m'a toujours frappé devant ce destin, c'est un destin. Je n'ai pas fait exprès d'être né à Hong Kong et d'avoir un père panaméen. Nous en sommes tous là, nous sommes donc dans un destin. Et c'est une sensation qui m'a jamais quitté d'étrangeté. d'étranger, d'étrangeté. Et je crois que dans toute mon œuvre, cette étrangeté est là. Je dirais même une sorte d'incongruité, pour reprendre un terme d'un écrivain espagnol que j'aime beaucoup, qui est Ramón Gómez de la Serna. Et il a écrit, entre autres choses, Salade d'incongruité. Et je reprends ce terme d'incongruité, la vie m'apparaissant comme une succession d'événements tout à fait incongrus. Et je pense que c'est ce destin qui m'a, c'est effectivement ces différentes frontières, si je peux dire, de l'esprit, qui m'ont amené à cet sentiment d'étrangeté et de très grande distance vis-à-vis de moi-même. Il y a Jérôme Garcin, c'est bon, on a bien sûr écrit beaucoup de choses sur moi, mais Jérôme Garcin avait écrit, il faut que ça me vienne à l'esprit, une chose que j'ai trouvée très, qui me concerne peut-être le mieux, il faut que ça me revienne, dit oui, Obaldia est le spectateur incrédule, d'une pièce qu'il n'a pas écrite, mise en scène à son insu et dont il joue le rôle titre, sa vie. Et je crois que c'est une des choses qui me, pour moi en tout cas à mes yeux, me représente le mieux.
C'est une définition un peu shakespearienne vue du côté du rire, puisque nous sommes tous dans ce théâtre, dans cette tragédie, etc. Les ombres de la tragédie, de la tempête de Shakespeare,
absolument.
Sauf que vous avez choisi d'en rire. Alors oui. Est-ce que vous avez ri tôt?
Quand je suis né, je crois que j'ai beaucoup pleuré. Du reste, je me demande pourquoi les enfants, quand ils naissent, sont dans un état épouvantable, à un moment aussi, souvent, et les pauvres enfants qui sortent de là, qui se mettent à sangloter, à hurler. Pourquoi les nouveau-nés ne se mettraient pas à rire en naissant, par exemple?
Parce qu'il paraît que c'est un appel d'air.
Ah, c'est possible.
Il paraît que l'air s'engouffre.
Alors, vous êtes plus, vous êtes plus informé que moi. C'est possible. Enfin, voilà. Oui, c'était une sensation d'étrangeté qui m'a toujours poursuivi. Et quand vous parlez des femmes qui sont le fil rose un peu de toute mon œuvre, et c'est vrai, c'est Rosie Vart qui dernièrement m'a dit « Mais René, vous êtes un des seuls à avoir écrit tant de rôles pour les femmes, qui a beaucoup de rôles masculins pour les hommes, et il n'y a pas tellement de rôles pour les femmes. » Alors elle m'a rappelé, bien sûr, Genousie, elle m'a rappelé deux femmes.
Rappelez ce que c'est Genousie.
Alors Genousie, c'était une première pièce.
Montée par Jean Villard.
Et c'était tout à fait imprévu pour moi parce que je me destinais, comme on disait à l'époque, aux belles lettres. Donc ce qui m'importait d'abord la poésie, avant toute chose, puis les romans, une certaine forme de roman d'ailleurs. Et puis entre-temps, j'avais entre deux livres, pour ma satisfaction personnelle, enfin pour moi-même, j'avais écrit cette pièce. Et un jour, je rencontre Jean Villard, qui avait lu Le Centenaire. J'avais écrit Le Centenaire à ce moment-là, qui avait fait un roman, donc. Mes mémoires de centenaire, lorsque j'avais 40 ans, il fallait prendre des devants. Et qui m'a, on a beaucoup
vous
parlé.
Vous saviez déjà que vous seriez immortel.
C'est trop dire. En tout cas, Jean Villard, de sa belle voix, m'a dit, vous n'auriez pas écrit une pièce de théâtre, etc. Et je me souvenais tout à coup que j'avais écrit pour moi-même cette pièce. Mais comme je revenais de guerre, comme dit la chanson, je revenais de guerre et j'étais dans une situation financière très difficile, j'habitais trois chambres de bonne, si je peux dire. Des amis m'avaient prêté leur chambre de bonne. Si bien je ne savais jamais où se trouvaient exactement mes affaires et que lorsque j'ai voulu retrouver cette pièce, je ne la retrouvais pas. Il est revenu à la charge et j'ai retrouvé enfin cette pièce dans une chambre de bonne, c'était dans une bassine à frites. Et alors je l'ai envoyée, donc très fière, à Jean Villard.
Il a appelé une comédie onirique.
Onirique, tout à fait, parce que tout se passe. Alors, c'est une réunion, n'est-ce pas, d'une femme qui fait une grande réunion chez elle, et arrive un auteur dramatique accompagné d'une femme merveilleuse, c'est Mariam Auban qui l'incarnait, et qui revient de Genousie, donc pays imaginaire, et qui ne parle que genousien. Alors, son mari traduit, n'est-ce pas, son mari traduit. Alors, elle dit Trotus Ivor et Darren, Crucius et Malbechtolt, des choses comme cela, une langue inventée, donc, alors qui est tout le monde, qu'est-ce qu'elle dit? Et Irène demande s'il y aura des artichauts à manger, n'est-ce pas? Et elle rencontre tout à coup un poète qui est là, et c'est le coup de foudre, véritablement le coup de foudre. Alors, les personnages s'éclipsent, et il y a une histoire d'amour extraordinaire qui se passe entre le poète, qui ne parle pas la même langue qu'elle, mais l'amour se passe de langage, et ça se passe, toute la pièce se passe.
C'est peut-être un bonheur d'ailleurs.
Oui.
C'est peut-être un bonheur de ne pas se comprendre.
Aussi, il y aurait des choses à dire là-dessus, pas mal. Et puis, à la fin, on revient au début de la présentation, et comme si rien ne s'était passé, n'est-ce pas? Mais on se doute qu'il va se passer ce qui s'est vu dans l'inconscient, dans ce qu'on appelle une pièce, pourquoi je l'ai appelé une pièce onirique, effectivement.
Au fond, vous avez toujours des lieux, pas toujours oniriques, puisque le Kentucky existe, mais les branches de sassafras, c'est aussi un pays imaginaire, ou du moins un temps imaginaire. Après l'espace imaginaire, vous avez eu le temps imaginaire.
Oui, bah, non, je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire, parce que dans le sassafras, c'est quand même très réaliste. C'est...
Oui, mais enfin, ils jouent aux Indiens.
Ah ben bah oui, non, mais ce sont des archétypes, si je peux dire. C'est-à-dire que j'ai pris c'était très difficile pour moi de prendre le western, de prendre une pièce de théâtre faisant un western dans quelques mètres carrés, en fait. C'était une gageure. Alors, c'était vraiment, mais ça m'a beaucoup amusé de l'écrire, bien sûr. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir comme création Michel Simon, comme interprète, qui n'avait pas été là depuis, n'avait pas fait ni de cinéma, ni de théâtre depuis 7 ans. On l'a redécouvert grâce au vent dans les branches de sassafras.
Comment vous avez pensé? Qui a pensé à Michel Simon?
Eh bien, ça a été une longue histoire. On avait présenté cette pièce à différents acteurs importants. Intéressé, trouver ça. Et même un directeur de théâtre me disait, c'est pas du tout commercial, c'est trop intellectuel, etc., etc., etc. Donc, on était un peu dans l'expectative. Et puis, c'est quelqu'un qui a dit, mais Michel Simon, autour de nous. Oui, si on regardait, ça me revient à l'esprit, on regardait, c'est le nom, dans des volumes, le nom des acteurs, etc. Alors, on tombe Michel Simon. On dit, oh, ben, ce serait trop beau, Michel Simon. Et puis, quelqu'un dit, mais si, quelqu'un qui le connaît, il est à Noisy-le-Grand, il vit retiré, très retiré avec ses animaux. Enfin, c'est la légende qui disait ça. Et donc, on a envoyé le texte à Michel Simon. Et Michel Simon m'a répondu, alors, par retour pratiquement, il était en Suisse à ce moment-là, donc peut-être 4-5 jours après, une lettre fantastique d'admiration, d'intérêt, avec des très belles écritures, Michel Simon, et puis des formules grand siècle, si je peux dire, puisqu'il terminait cette lettre en disant « Je vous admire, permettez-moi de vous aimer ». Oui,
oh,
ah, c'était superbe, c'est superbe. Et là a commencé le cauchemar avec Michel Simon, parce qu'il avait dit d'ailleurs au directeur de théâtre, je donnerais cher, je paierais pour jouer un tel rôle. Et naturellement, il a demandé très très cher, un cachet exorbitant. Enfin voilà, c'est une autre histoire.
Bon, alors revenons quand même à votre vie, puisque nous étions partis sur votre vie. Vous avez fait vos études au lycée Condorcet juste après la Première Guerre mondiale, puisque vous êtes né en 1918.
C'est ça.
Sur
c'est
les ruines de l'Europe, quoi,
oui,
si on peut dire.
Oui,
hein.
Oui, oui.
Et donc, se passe un certain temps. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous visitez malgré vous la Silésie.
Tout à fait.
Hein,
oui,
vous vous retrouvez dans un stalag. Si j'ai...
Absolument.
Et vous êtes rapatrié au Val-de-Grâce, le bien nommé pour vous d'ailleurs.
Merci. Oui.
Voilà. Qu'est-ce que vous gardez de cette époque? Et est-ce que c'est une vision des généraux et des vizirs que vous allez représenter par la suite?
Non, c'est pas ça. Pas tout à fait. Je veux dire que, vous savez, d'avoir vécu 4 ans comme ça, dans ces conditions, pour le moins très difficiles, ça vous donne un raccourci sur l'homme, sur ce qu'est l'homme, qui peut être le pire. Et le meilleur. Vous savez, quand on a faim, par exemple, on est capable de tuer son voisin. Je serais capable de tuer mon voisin.
Vous, le charmant René de Obaldien?
Mais c'est possible. C'est,
oui.
Je ne ferai aucune torture.
Oui.
Je ne suis pas du tout le bourreau
dont
on parle
de
etc. Non, ce serait impossible. Mmh. Mais on ne sait pas, dans les conditions de famine, de détresse, ce qu'on est capable de faire. Et à côté de ça, lorsqu'on partage un morceau de pain, qui est la survie même, et qu'il y a un camarade un peu plus faible, et qu'un autre lui donne une petite part de son pain, il sauve l'homme. Mmh. Et c'est ce que j'ai compris. Comme nous n'avions rien, ce n'est plus l'avoir qui compte, il n'y a plus d'avoir, c'est l'être qui compte, n'est-ce pas? Ce sont des valeurs d'être. Et ces valeurs d'être, c'était pour moi très important de les connaître très vite. Simplement, 4 ans, c'était un peu long, j'aurais pu comprendre un peu. Un an aurait suffi amplement, mais enfin voilà.
Et dans ces cas-là, la littérature perdure, elle survit?
C'est-à-dire que d'abord, on ne peut pas lire. J'étais dans des conditions, j'étais en camp de discipline en plus, ce qui fait qu'il n'y avait pas de lecture possible, même pas d'écriture possible, tout était très compliqué. On songeait à survivre simplement. Et c'était en Silésie, vous l'avez rappelé, il faisait à cette époque, les époques de guerre, comme on appelle, il y avait des hivers de guerre, il faisait moins 28, moins 30, même les Polonais disaient qu'ils n'avaient pas vu ça depuis je ne sais pas combien de temps. Et toute la question, c'est de ne pas avoir les oreilles gelées, les pieds gelés, de pouvoir un peu manger, d'avoir encore un peu chaud, et donc il n'est pas question de littérature. Simplement, il est bien évident que toute la littérature que j'avais dévorée, si je peux dire, avant cette guerre, les romantiques allemands, justement, voilà, j'étais passionné par les romantiques allemands. Évidemment, ça n'a pas tout à fait la même chose du temps des nazis, mais naturellement, m'aide à vivre, n'est-ce pas ? Toute la culture, c'est une nourriture, une vraie culture. Et donc, cette nourriture m'a aidé, effectivement, à vivre. Mais on ne pouvait pas, il n'y avait pas question de lecture, d'écriture, rien du tout.
Nous allons faire une courte pause, monsieur de Obaldia, et nous nous revoyons tout à l'heure, juste dans quelques minutes. Lorsque vous revenez, comme Malbrouck, de la guerre, vous publiez ce que vous appelez des récits éclairs. Et déjà, donc, vous écrivez dans un genre qui n'a pas de genre. Comme vous allez écrire les 7 impromptus à loisir, ce sont des genres qui n'ont pas de genre, ce n'est pas des nouvelles.
Absolument. Oui, c'était les récits éclairs, ce sont des récits très brefs, donc pourquoi j'ai appelé récits éclairs, assez singuliers, d'une grande singularité, et effectivement qu'on ne peut pas rattacher dans la littérature française, en tout cas, sauf des poèmes en prose de Max Jacob. On pourrait parfois trouver ça chez Max Jacob, mais c'est quand même tout à fait autre chose. Et ça m'a valu effectivement d'avoir la première attention sur moi à partir de cette publication des Richesses naturelles. Oui.
Oui, alors c'est assez intéressant que vous disiez ça n'existe du moins pas en France, car on a souvent l'impression d'une inspiration parfois anglo-saxonne, parfois américaine du Sud,
oui,
qui vient d'ailleurs, comme on dit.
Oui, oui. Alors, je fais quand même une parenthèse. Henri Michaud, qui s'apparenterait quand même à ça, oui. Hein, dans les Monsieur Plume, etc. Henri Michaud s'apparenterait à cet état d'esprit. Mais là, je dirais que c'est plutôt un humour espagnol. Et c'est un humour que les Français ne comprennent pas très bien, ne sont pas tout à fait avertis de cette sorte d'humour. Parce qu'on est, bien sûr, l'humour anglo-saxon est très, très familier pour nous. Mais c'est Jean Cassou qui avait préfacé mon premier grand Tamerlan des Cœurs, qui m'a comparé à un écrivain dont j'ai parlé tout à l'heure, je crois, qui est Ramon Gomez de la Serna, et que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis bien sûr intéressé et passionné d'ailleurs pour cet écrivain. Mais c'est alors qui écrit lui des salades d'incongruité. C'est là où ça me rejoint quelque peu et où quand même l'homme était. Il disait je suis maître en excentricité. C'est-à-dire que cet homme très grave, il y avait un grand pathétique. Après tout, c'était comme Unamuno qui a écrit le sentiment tragique de la vie, n'est-ce pas ? Ça rejoint le sentiment tragique de la vie, mais ça n'empêche pas l'humour, et un certain humour.
Et Salvador Dalí, que personne n'a jamais compris en France.
Absolument, mais bien oui. Sûr. Mais si je reprends Unamuno, pensez que Miguel Unamuno était, si je me souviens bien, recteur de l'université de Salamanque. Donc, il avait donc écrit le sentiment tragique de la vie, l'agonie du christianisme et bien d'autres ouvrages. Et puis, ce même Unamuno a écrit un précis de cocotologie, la façon de faire des cocottes. Oui, voilà. La façon de faire des cocottes en papier. Ça paraît pour nous très 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 étonnant. Ça paraît pas sérieux. Hein. Oui. Et alors j'ai ce volume de précis de cocotologie de Miguel de Unamuno avec planche à l'appui, comment plier, déplier, et la philosophie qui en découle, c'est absolument merveilleux. Oui. Voilà une forme d'humour que les Français ne perçoivent pas très bien.
C'est vrai.
Trop souvent, je dirais, qu'il y a trop une confusion entre la gravité et la pesanteur. Ou si vous voulez plutôt, entre la pesanteur et la gravité. Enfin, il y a une confusion.
C'est dans un roman de Nimier, je crois, qu'une femme dit que elle reconnaît dans la vie l'un des plus grands dons qui est celui de la légèreté et qu'elle se réclame une femme légère, car pourquoi serait-elle une femme lourde ?
Ah, c'est très joli. Alors, à propos de légèreté, il y a un mot là de Chesterton, voilà encore un auteur anglo-saxon, celui-là bien sûr, Chesterton, qui disait « Les anges volent parce qu'ils se prennent eux-mêmes à la légère ». C'était très 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 joli, c'est de Chesterton.
Oui, c'est très joli aussi. Alors, nous sommes en 56, à cette époque de Tamerlan des cœurs et de la préface de Jean Cassou, c'est-à-dire à peu près au moment où Khrouchtchev raconte les crimes de Staline.
Oui.
Et ce qui est amusant, c'est que vous êtes dans la grande histoire, bien entendu aussi, et vous le savez bien sûr, et vous restez léger. C'est-à-dire que jamais au fond, est-ce cela l'immortalité verte de l'Académie, vous n'entrez jamais dans le cours des choses au point de vous démoder puisque vous n'êtes jamais à la mode.
Oui.
On ne vous voit pas à la télévision, par exemple.
Parce que, oui, on me voit guère à la télévision. C'est quand même un pivot, mais quand même très gentiment invité.
Ah oui.
De temps en temps.
Mais vous n'êtes guère. Pas un auteur, ce qui est un
non,
compliment.
Pas du tout. Non,
ce qui est
un compliment. Mais c'est une question de nature. C'est une question de nature. En général, j'évite ce qu'on appelle les médias en général et tout ce que ça implique de nos jours. Enfin, des sortes de enfin, je n'ai pas à critiquer quoi que ce soit. C'est pas mal.
Non, mais vous donnez rarement votre avis sur le cours des choses.
Ah oui, absolument,
ou sur la politique.
Absolument. Parce que, oui, c'est tout à fait exact. Mais cela dit, vous parliez de Tamerlan des cœurs, mon premier roman, donc. Eh bien, déjà, la cruauté de l'homme, sa propension, si je peux dire, au mal, est une chose qui m'a toujours hanté. Et ce Tamerlan des cœurs, j'ai pris Tamerlan parce que j'hésite entre Gengis Khan et Tamerlan. On fait des horreurs, mais toute l'histoire est faite d'horreurs.
Oui, quand j'étais petite, j'adorais l'histoire des yeux empilés.
Mais oui.
Il arrachait les yeux, il les nucléait, empilait tout
voilà,
ça.
Voilà, absolument. Oui.
Alors, vous empiliez les cœurs.
Alors Tamerlan des cœurs, bien sûr, c'est bourreau des cœurs, sous-entendu bourreau des cœurs. Alors là, il y a des histoires avec les femmes qui réconcilient parfois avec la vie, avec la vraie vie, avec la nature même. Mais c'était toujours une obsession pour moi, la cruauté, et ça ne s'est pas arrangé depuis l'origine des temps. Et c'est ça, la barbarie continue. Et après tout, les latins avaient dit homo homini lupus, n'est-ce pas ? L'homme est un loup pour l'homme, et c'est évident que malheureusement, nous assistons encore à ces tragédies.
Oui, alors ce qui m'a surprise précisément, c'est en relisant votre discours de réception à l'Académie française, de voir combien, bien sûr, vous succédiez à Julien Green et à ses problématiques plutôt chrétiennes, mais à un moment, vous parlez beaucoup du mal et du diable diable lui-même,
oui.
Si je puis dire,
oui.
Hein, du singe de Dieu, comme disait Maître Eckhart. Or, vous en parlez longuement.
Oui.
On sent que c'est un problème qui vous
Absolument.
Intéresse.
Oui, tout à fait.
Alors que c'est très surprenant, parce qu'on ne vous a pas élu, si je puis dire, pour cela.
Non. Mais vous savez, comme j'ai écrit des choses très variées, en fin de compte, et même dans le même ordre. J'ai des pièces de théâtre qui sont, comme et à la fin était le Bang, à 22 personnages, c'est pourquoi on ne joue pas d'ailleurs, et très peu, et qui est une pièce mystique, qui n'a rien à voir avec le Sassafras, par exemple, qui est un divertimento, si on prend un langage musical. Mais effectivement, le mal est pour moi un problème numéro un, n'est-ce pas ? Le problème du mal, de qu'est-ce que l'homme et le mal. Alors, vous parliez de Maître Eckhart, il a dit des tas de choses là-dessus, mais oui, même dans mon discours, j'ai cité une phrase de Cocteau, que j'aime beaucoup, qui est très, très amusante, c'est là quand Cocteau dit, à propos du diable, où Cocteau dit à un moment donné, sans le diable, Dieu n'aurait jamais atteint le grand public, qui est une chose admirable. Quand sur un registre plus important, qui est Maître Eckhart, qui est même toujours fasciné aussi, quand on disait Dieu connaît son enfer, Dieu connaît aussi son enfer, c'est son amour pour les hommes. Enfin, dans un autre.
C'est merveilleux
oui,
d'ailleurs.
Oui,
c'est
tout à fait.
Comme
tout à fait.
C'est une phrase d'ailleurs très optimiste au fond.
Mais oui. C'est-à-dire que Dieu devient vulnérable d'une certaine manière.
Oui, mais c'est optimiste.
Très bien, ça devient plus humain.
Mais vous citiez quand même aussi Kafka et Berdiaïev.
Oui, bien sûr.
Rappelle bien.
Oui, donc, tout à fait.
Vous placez. Et alors, vous commencez. Donc, je l'ai relu parce que vous commencez par une phrase d'anthologie. Et tout en parlant du diable de Berdiaïev, de Kafka et de choses pas bien gaies. Vous commencez, moi je trouve, par un ton, je ne sais pas si vous l'avez lu, à la Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, c'est cette auteure extrêmement prolifique,
certes,
mais qui a écrit un petit chef-d'œuvre, à mon avis, qui s'appelle « La métaphysique des tubes », où elle raconte son regard de bébé sur le monde. Et vous, vous commencez, je trouve que c'est un petit écho.
Ah oui, oui, oui.
Le fait d'exister, messieurs, bien sûr, le fait d'exister, de compter parmi les milliards d'individus qui s'agitent sur notre planète, est une aventure à la fois commune et singulière et qui prête à réfléchir.
Oui.
Pour ma part, dès ma naissance, dès ma trouée en ce bas monde, je fus ébobi. Ébobi, non seulement de voir le jour, après 9 mois de cécité absolue, mais de me trouver ex abrupto en Chine, dans une colonie britannique Hong Kong, flanquée d'un père panaméen et d'une mère française originaire de Picardie. Bientôt, j'allais être allaitée par une nourrice toute jaune qui répondait au nom de Tai Honghua, que nous pouvons traduire par « fleur d'arc-en-ciel ». Après, on se demande d'où vous vient votre goût du théâtre et de l'illusion. Est-ce que vous avez ce sentiment d'être toujours... Bien sûr, vous êtes en décalage, mais est-ce que vous le faites exprès ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est tout à fait naturel. Non, du reste, c'est très compliqué de... Et cette forme d'humour même que vous évoquez, s'il était forcé, pas du tout. C'est une question de... Comment vous dirais-je ? Oui, tout à fait naturel, qui est mystérieuse, en fait. Mais si vous voulez, il y a quand même de deux choses l'une, où nous sommes dans le drame, enfin pour moi en tout cas, le plus complet par rapport à l'existence et au problème de la mort, de la souffrance. La souffrance, autour de nous est terrible, la mort, etc. Alors, ou alors on a une vision complètement nihiliste et on peut se suicider. Ou alors, c'est pour moi, c'est certainement une sauvegarde naturelle qui est de prendre une certaine distance, et l'humour, un certain humour, un humour tragique d'une certaine manière, me sauve. Je ne suis pas comme Cioran, n'est-ce pas, qui faisait, lui, profession de désespoir, si je peux dire.
Oui, il disait d'ailleurs, parfois il téléphonait, puisque je le connaissais, en disant « Je suis en crise sous métaphysique ».
Ah oui, oui, c'est très, tout à fait Cioran, ça. Vous savez, il y a une phrase de Cioran, il y avait beaucoup de choses à dire sur Cioran et son pessimisme, mais il l'exprimait dans une langue admirable.
Avec son petit accent roumain.
Oui, absolument, Et il peut s'apparenter, à mon sens, comme nos moralistes, d'une certaine manière. Mais il y a quelque chose de lui qui me revient à l'esprit, absolument terrible et merveilleusement formulé lorsqu'il dit « l'homme moderne bricole dans l'incurable ». C'est absolument désespérant, mais en même temps, la formulation est superbe.
Et puis, ça correspond à votre élégance aussi, parce que c'est vrai, on peut être Artaud ou Obaldia, puisque vous parliez du théâtre de la cruauté,
bien sûr.
Être celle d'Artaud. Or, en 68, ou à peu près en 68, vous publiez, je crois, Les Innocentines. Quand même drôle.
Oui.
C'est un pied de nez.
Oui, c'est-à-dire que, vous savez que la première Innocentine, que je peux peut-être vous lire d'ailleurs...
Oui, j'aimerais bien.
Qui s'appelle Chez moi, je l'ai écrit quand j'étais en captivité, précisément. Quand j'étais dans un état où le monde vraiment était à feu et à sang. Et là, il y avait une sorte de réaction en moi. Si je pouvais écrire une chose innocente, une chose d'enfant, un monde quand même, un monde
donc,
premier.
Donc la littérature existe
oui.
en captivité.
Alors oui, attendez, ça s'est pas fait comme ça. Je n'avais rien pour écrire. C'était dans un sac d'engrais que j'avais pu rafler pour près et avec je ne sais plus quoi qu'on a pu avoir un crayon dans lequel j'ai pu arriver à écrire ceci, à composer cela.
Vous composez toujours dans des bacs de frites ou dans des sacs d'engrais.
Non, faut pas exagérer. Enfin, voilà. Et alors, la chose curieuse, c'est que quand je suis donc revenu de guerre, pour employer l'expression...
Consacrée,
c'est Chez moi, que je vais vous lire, a été publié dans la Nouvelle Revue Française. Et voilà, alors j'ai eu cette chance. Et à ce moment-là, des amis m'ont dit, mais c'est charmant, c'est Chez moi, c'est un ton nouveau un peu, et si vous pouviez donner une suite, ce serait très agréable, ce serait intéressant. Et j'ai dit, mais oui, pourquoi pas, effectivement. Eh bien, cette suite, je l'ai donnée près de 20 ans après. Ça fait un courant souterrain en moi, je ne sais pas. Et 20 ans après, j'ai écrit alors toute une série de poèmes sous le titre de Innocentine. C'est un cheminement souterrain, si je peux dire. Et ensuite, je me suis vraiment enfermé, parce que c'est une sorte de grâce, les Innocentines. C'était pour moi, en tout cas.
Ce sont des poèmes pour les enfants
et quelques adultes.
Oui,
exactement.
C'est ça. Alors, nous allons maintenir le suspense et attendre quelques minutes avant de reprendre pour écouter cette Innocentine.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, Monsieur André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amouroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
Je suis avec René de Obaldia pour un habit vert et comme promis, vous allez écouter une innocentine.
Chez moi, dit la petite fille, on élève un éléphant. Le dimanche, son œil brille quand papa le peint en blanc. Chez moi, dit le petit garçon, on élève une tortue. Elle chante des chansons en latin et en laitue. Chez moi, dit la petite fille, notre vaisselle est en or. Quand on mange des lentilles, on croit manger un trésor. Chez moi, dit le petit garçon, nous avons une soupière qui vient tout droit de Soissons quand Clovis était notaire. Chez moi, dit la petite fille, ma grand-mère a 100 000 ans, elle joue encore aux billes tout en se curant les dents. Chez moi, dit le petit garçon, mon grand-père a une barbe pleine de pinsons qui empeste la rhubarbe. Chez moi, dit la petite fille, il y a 3 cheminées et lorsque le feu pétille, on a chaud de 3 côtés. Chez moi, dit le petit garçon, passe un train tous les minuits. Au réveil, mon caleçon est tout barbouillé de suie. Chez moi, dit la petite fille, le pape vient se confesser. Il boit de la camomille une fois qu'on l'a fessé. Chez moi, dit le petit garçon, vit un empereur chinois. Il dort sur le paillasson aussi bien qu'un Iroquois. Iroquois, dit la petite fille, tu veux te moquer de moi? Si je trouve mon aiguille, je vais te piquer le doigt. « Ce que c'est d'être une fille, répond le petit garçon. Tu es bête comme une anguille, bête comme un saucisson. C'est moi qui ai pris la Bastille quand t'étais dans les oignons. Mais elle ne t'est le qui, je n'en dirai pas plus long. »
C'est merveilleux. Je vais en lire deux autres. Hein. Oui, oui.
« Mon petit frère a un zizi, mais moi, Zaza, je n'en ai pas. Mon petit frère a un zizi, toujours placé au bon endroit, mais moi, Zaza, je n'en ai pas. Pourquoi ? Il me le montre sans répit, pour me donner du dépit, pour se donner un air gaulois, pour m'enfoncer dans le désarroi. Il me le sort en catimini, en tapis rouge, en tapis noir, et me le fait toucher du doigt. C'est assez doux comme caoutchouc, mais il n'y a pas de quoi perdre la foi. Et moi, je me dis, mais pourquoi mon frère a un zizi ? Dans quel tiroir se font les lois ? Le jour et la nuit, son zizi le suit, toujours placé au bon endroit. Et moi, Zaza, dans les draps blancs, j'ai beau me tâter souvent, à la place, ça aurait dû été que du vent. Tu verras, Zaza, avec mon zizi, un jour, je serai le roi, qu'il dit, tout en lui collant tout autour du sparadrap. À la fin, c'est énervant de manquer obstinément de cette sorte d'émolument. Si j'ai le regard zoulou, si j'ai le nombril sournois, si je fais des coups en dessous, si je pousse de guingois, si je ne fais pas mon poids, faut pas demander pourquoi. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et voilà, pour terminer, une note plus poétique peut-être, c'est une pièce qui s'appelle « Antoinette et moi ». C'est émis, je vous signale que certaines de ces innocentines ont été mises en musique par Gérard Calvi, d'une façon merveilleuse. Enfin, il y avait une vraie rencontre, ça donnait lieu à un spectacle d'ailleurs. Antoinette et moi, on va dans les bois, on connaît un coin où il n'y a que des lapins. Antoinette et moi, on va dans les bois, c'est à qui des deux grandira le mieux. Quand on sera grand, on sera des amants, on s'embrassera comme Élise et Nicolas, mais il faut pousser pour bien s'emboîter et pas avoir peur de perdre sa pudeur. On sera des amants, des bouches, des bras, des regards flambants, des... etc. Mais il faut grandir, on est trop petit, c'est comme un navire qui serait pas bâti. Antoinette et moi, on va dans les bois pour grandir ensemble un peu chaque fois. Elle me tire les jambes, je lui tire les bras. Elle me tire la langue, je lui tire les doigts. À force de tirer, de nous faire craquer, on doit bien gagner un peu de chaque côté. Parfois, on se met nu quand il y a du soleil. Ça frappe la vue qu'on n'est pas pareil, mais On est bien fait pour se délecter. Sa peau, c'est du lait. Et moi, je suis du thé. Et quand on s'endort, tous les deux, comme ça, je sens très très fort que je ne mourrai pas.
Vous deviez être un délicieux garnement. Donc, vous avez parlé, justement, et vous avez toujours aimé écrire quelque chose aussi d'original, des pièces radiophoniques.
Oui, absolument. Vous dites
que la radio, évidemment, tenait un rôle extraordinaire à l'époque.
Un très grand rôle, et moi, j'ai toujours aimé vraiment profondément la radio, parce que c'est l'imaginaire en même temps, n'est-ce pas?
C'est la parole,
c'est l'oreille, c'est l'imaginaire en même temps. Ce n'est pas la fixation d'une image qu'on impose. Et donc, ça m'a vraiment intéressé. Et à cette époque, on faisait des commandes, et j'avais reçu des commandes de la radio. Et il y avait un homme merveilleux, d'ailleurs, qui est mort récemment, qui est Alain Trutat, qui était de mes amis, qui a fait beaucoup pour faire venir des auteurs qui n'étaient pas spécialement connus à l'époque, pour le faire travailler spécifiquement pour la radio. C'était mon cas.
C'est à cette époque que vous avez connu Pierre Schaeffer.
Oui, c'était à peu près à l'époque où j'ai connu Pierre Schaeffer, qui lui a fait le club d'essai, c'était le club d'essai, je crois,
oui.
Ça s'appelait ainsi.
Oui.
Alors bien sûr, Schaeffer s'est tout de suite intéressé à moi, et moi à lui. Je veux dire que c'était un homme tellement merveilleux, tellement singulier.
C'est donc lui qui a créé le service de la recherche à l'ORTF.
Ah oui, c'est ça. C'est
puis l'INA, juste avant que l'INA n'explose et soit repris autrement.
Effectivement. Non, c'était un homme qui est devenu mes amis, un très cher ami. Et
donc vous avez fait, alors j'étais à l'enterrement de Pierre Schaeffer et ma stupeur a été grande de vous entendre faire son oraison funèbre.
Oui.
On ne vous attendait pas là non plus.
Non, mais voilà, j'étais là et c'était donc...
Et c'était très touchant parce que c'était très gai, c'était enjoué, je n'ai jamais entendu une oraison funèbre enjouée, mais il aurait aimé ça.
Je pense qu'il aurait aimé ça. Il était tellement anticonventionnel, c'est un esprit tellement libre et tellement intelligent, d'une grande intelligence aux forces... au sens fort du terme, de comprendre, n'est-ce pas, d'intelligérer. Oui, c'est pour moi, il habite toujours en moi, Pierre Schaeffer, voilà.
Vous avez d'ailleurs toujours aimé les musiciens, puisque vous avez aussi fait l'oraison funèbre de Messiaen.
Oui, bien sûr.
Pas seulement pour faire l'oraison funèbre, évidemment.
Non, bien sûr, non.
Je dis les musiciens, pardon, parce que Pierre Schaeffer, pour l'expliquer aux gens, était aussi le père de la musique concrète,
entre guillemets. Absolument, de la musique concrète. Dont il le situait, il le mettait à sa place. Il était à la fois très, très intéressé, bien sûr, par ce qu'il avait fait, par cette création de la musique concrète. Mais il ne se bornait pas là, il avait un esprit très éclectique et en même temps il a écrit des romans également. Puis surtout sur la communication, il a écrit des choses très importantes sur la communication. Alors Olivier Messiaen, c'était tout à fait autre chose, bien sûr, c'est tout à fait un autre univers. Bien sûr, un autre univers. Mais j'ai eu la chance de connaître Messiaen juste un peu avant la guerre. Il faisait partie de ce qu'on appelle du groupe Jeune France. Du groupe Jeune France, il y avait Jolivet, Messiaen, Yves Baudrier et Daniel Lesur. Et Daniel Lesur. Et donc une amitié également là s'est faite immédiatement avec Olivier Messiaen, qui est un personnage, ce serait trop long à vous en parler, mais tout à fait particulier. Et pour moi, dans la musique, et surtout sa musique d'orgue, pour moi, a été une révélation. C'était quelque chose de très important. Et puis l'homme était
très... C'est lui qui a écrit un requiem... Ou une apocalypse, non?
Il a écrit sur
les
grand
oiseaux,
sur les oiseaux, Saint-François d'Assise, etc. Mais sa musique d'orgue est tout à fait étonnante. Il a écrit le quatuor pour la fin des temps, qui m'avait beaucoup frappé aussi.
Oui, pardon,
c'est ça, le quatuor pour la fin des temps. Il avait d'ailleurs écrit en captivité, lui. Il avait été aussi en stalag, mais il est revenu bien avant moi, et nous n'étions pas dans le même stalag.
Et cette musique, alors, pourquoi est-ce que
c'est... Eh bien, parce que j'ai toujours été très sensible à la musique. J'aurais aimé être musicien, mais je n'en avais pas les moyens.
Vous l'êtes dans les mots.
Alors voilà, je me suis rattrapé avec le langage.
Alors, au fond, vous avez aussi écrit, et c'est un peu une exobiographie.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est-il qu'une exobiographie, puisque on connaît, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une chaire qui s'est fondée au CNRS, enfin qui est l'exobiologie.
Ah, moi,
c'est une nouvelle
pas.
Discipline.
Ah oui.
Alors, vous avez fait une exobiographie avant l'exobiologie.
Oui, oui,
alors,
oui.
Qu'est-ce que c'est l'exobiographie?
Eh bien, je vais vous dire, lorsqu'on a demandé d'écrire... Vous savez, quand on arrive à un certain âge, on vous demande d'écrire vos mémoires. Donc, mon charmant éditeur m'a poussé à écrire sa mémoire. J'avais beaucoup de réticence à parler de moi. Il y a un « je » qui m'insupporte. Et d'autant qu'on est, et surtout maintenant, on est abreuvé de plus en plus de gens qui, au fond, ne parlent que de leur... sont fixés sur leur nombril, si je peux dire. Il y a un nombrilisme terrible. Et je sais pas, leurs histoires, petites histoires. J'aime ceci, j'aime pas cela. Dans mon enfance, j'ai eu ceci, j'ai pas mangé de confiture. J'ai couché avec ma tante, n'importe quoi. Donc, moi, personnellement, vraiment, je voulais éviter ce genre de choses. C'est pourquoi, plutôt qu'une autobiographie, j'ai parlé de exo-ex pour aller vers l'autre, n'est-ce pas? Car en fin de compte, si je n'ai pas un autre, c'est sans intérêt pour moi. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ce titre, exo-biographie, parce que en même temps que je parle de moi, je suis bien obligé tout de même, on me l'a demandé, j'en parle, mais sur un plan d'une réalité très concrète. J'en reviens à l'onirisme, au surréalisme, on pourrait presque dire, où à partir d'une réalité, je la transfigure en un autre domaine, qui est celui de l'onirisme. C'est-à-dire d'une chose qui est complètement poétique et qui rompt le récit simplement réaliste. Donc c'est cette exobiographie, qui m'a valu d'ailleurs beaucoup de lettres aussi, beaucoup d'attention, a été une rupture avec les classicismes des mémoires. Voilà.
Alors.
Je pourrais vous donner un exemple d'ailleurs. Oui. Par exemple, je parle de captivité, n'est-ce pas? À un moment donné, je mets très peu, je ne suis pas étendu là-dessus, mais on a été couverts de poux. Bon, c'était une chose classique. Bon. Et alors j'avais organisé au Stalag où je me trouvais, comme c'était pas très drôle, moi je puisse dire, j'avais organisé des courses
c'était
de poux.
C'était irritant, comme on
oui.
dit.
Oui, disons. J'avais organisé des courses de poux. Voilà. Alors on avait mis un tréteau, bien
ça
sûr.
Ça se voit les poux?
Alors bien sûr, ça se voit très bien. Ah oui, oui.
Oui.
Alors ah oui, oui, oui. Oui, c'est des petites bêtes qui sont avec des petites pattes, tout ça. Bon. Mm. Et alors on avait une sorte de bout de bois comme vrai, puis on les faisait avancer. Alors ça faisait les courses de poux. Alors j'ai dû abandonner très vite parce que ça devenait tragique, en ce sens que dit course dit pari. Et bizarrement, on pariait sur le poux. Hein. Alors on n'avait rien. C'est-à-dire que le pari, c'était une demi-barre de chocolat, si on en avait, une flanelle, enfin une moitié d'une cigarette qu'on a pu avoir je sais pas où, etc. Si bien que j'ai arrêté cette chose-là, ça devenait dramatique. Hein. Mais, alors ça c'est la réalité, mais plus loin, j'ai mon mariage avec Mademoiselle Pou. J'ai un mariage avec Mademoiselle Pou, qui est un grand chapitre onirique, tout à fait. Et c'est ainsi que ça m'a intéressé d'écrire ce livre. Et pourquoi je l'ai intitulé « Exobiographie ».
Alors, monsieur de Rabeltiel, ma dernière question, au fond, sera sur vos mots.
M-A-U-X ou
M-O-T-S, mais vous pouvez parler des autres. Vous pouvez parler des autres.
Oui.
On peut parler des jeux sur les mots après. Mais il y a deux mots qui reviennent beaucoup et qui sont les mêmes, au fond. Et puis un troisième, sous votre plume. Il y a des mots qui reviennent chez les écrivains.
Oui.
Et vous venez d'en dire un tout à l'heure, c'est onirique.
Mm-hmm.
Alors le mot onirique, le mot rêve,
oui.
qui est le même,
bien sûr,
reviennent.
Bien sûr.
Et le deuxième mot qui revient beaucoup sous votre plume, c'est le mot cœur.
Ah, ça je m'en rends pas compte, bien sûr, vous êtes à découvrir.
Alors, onirique et rêve, est-ce que vraiment le rêve est pour vous votre réalité?
Ben, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est que la réalité, bien sûr. Ça serait trop présomptueux. Mais je pense effectivement que nous avons affaire à d'abord, nous vivons dans des représentations mentales, comme disent les hindous, dans le maya, dans l'illusion. Et c'est ce qu'on appelle la réalité. Je ne sais pas trop bien ce que c'est, je vous dis que la réalité. Mais il est évident pour moi qu'il y a un autre univers très vaste qui est effectivement qui nous échappe complètement et c'est après tout un de mes confrères c'était Calderon je crois ce Calderon a écrit la vie est un songe et j'ai un peu moi qui arrive quand même à un certain terme j'ai un peu vraiment profondément en moi cette idée que la vie est un songe alors c'est pourquoi cet onirisme vous le retrouvez fréquemment dans ce que j'écris. Voilà.
Avec des cauchemars?
Non, pas de cauchemars, vraiment. Le sens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sens du... je reprends le terme de Unamuno, n'est-ce pas? Le sens tragique de la vie, certes, mais pas le cauchemar, vraiment.
Donc vous êtes un homme de rêve?
je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais je ne sais pas.
Épilogue à cet habit vert avec René de Obaldia. Nous allons laisser le poète lire une de ses petites annonces de dames qui cherche un homme, comme nous toutes, qui n'existe pas.
Oui, ça fait partie de différentes pièces, bien sûr, dans ce recueil des fantasmes de demoiselles, femmes faites ou défaites, cherchant l'âme sœur. Alors ça va d'un beau jeune homme ayant bon caractère, d'un homme vraiment laid, d'un homme tronc, d'un bel hidalgo, etc.
De celui que j'aime, un mari qui me servira d'alibi.
Le mari qui vous servira d'alibi. Alors là, c'est la fin du recueil, cherche un homme qui n'existe pas. Beau, mais pas trop. Doux et rude, Paillard, bien que prude. Religieux et mécréant. Peau de vache et bon enfant. Florent, le soufre et la lavande. Végétarien aimant la viande. Voyageur et casanier. Désinvolte et cavalier. À toutes les heures qui sonnent, s'occupant de ma personne, aux grands, aux petits soins, surtout quand j'ai le rhume des foins, me procurant belle aisance, sans éprouver de repentance, point jaloux de mes soupirants, allons plus loin, de mes amants, tant il bénit mon existence, faisant semblant d'être ailleurs quand il m'attend chez le coiffeur, m'amenant toujours au théâtre quand c'est Antoine et Cléopâtre, toujours chic, même débraillé, même complètement déshabillé, froid, comme Saint-Éloi, chaud quand il le faut, prônant le pour et son contraire, trois mailles à l'endroit, trois mailles à l'envers, n'importe quoi pour me plaire. Bon, de ce pas, je vais aller me promener au bois si quelquefois je rencontre un homme qui n'existe pas.
J'ai donc eu le grand plaisir de recevoir Monsieur René de Obaldia, qui nous a fait l'insigne honneur et amitié de nous lire certains de ses poèmes. Vous pourrez retrouver toute cette émission en médiathèque quand vous voudrez et le télécharger à volonté.